Bienvenidos a las montañas del sureste mexicano. Queremos presentarnos. Nosotros somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante 10 años estuvimos viviendo en estas montañas, preparándonos para hacer una guerra. Abajo, en las ciudades y en las haciendas, nosotros no existíamos.
Gracias, compañeros y compañeras.
Dans la première déclaration de la forêt de la Condon, c'était vraiment l'idée de remonter jusqu'à Mexico, de libérer les terres pour que les peuples puissent s'organiser par le bas et se défaire le plus possible de la nécessité d'une gestion étatique.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Pasen todos, compañeros y compañeras.
Antoine Chao.
Alors, on va faire un grand voyage. Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps et un voyage de l'autre côté de l'océan Atlantique. On va partir au Chiapas parce que cette année se célèbrent les 30 ans voilà, de la prise, les armes à la main de San Cristóbal de las Casas et las montañas del sureste mexicano, des montagnes du sud-est mexicain. On se souvient des envolées lyriques du sous-commandant Marcos, voilà, pour ceux qui ont plus de 30 ans. Et vous, Cécile et Benjamin, vous en revenez, vous êtes allés, donc il y a eu une célébration hein, donc, au Chiapas. Alors vous, justement, vous avez moins de 30 ans, hein, Cécile et Benjamin. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce mouvement et pourquoi vous avez voulu aller à cette commémoration ?
C'est bientôt demain sur France Inter.
Benjamin.
Oui, parce que c'est aussi peut-être une référence dans le milieu militant à gauche aujourd'hui. C'était aussi une référence dans le mouvement altermondialiste des années peut-être 90 ou plutôt 2000. Qui a ressurgi récemment avec la notion aussi d'utopie réelle et justement cette réappropriation autonome des terres et aussi ce rejet de l'État qui passe par un nouveau mode d'organisation et qui nous a intéressés, qu'on a voulu aussi découvrir peut-être de plus près lors de cette fête, de cette célébration des 30 ans.
Moi, j'ai juste un truc à ajouter.
Cécile.
C'est que, donc, en fait, les 40 ans du mouvement et les 30 ans de la prise de San Cristobal, et la prise de San Cristobal, c'était une commandante, Ramona, qui était à la tête, donc, du soulèvement et de la prise de terre. Voilà.
Vive la commandancia générale de l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional!
C'était effectivement un soulèvement militaire avec des femmes aussi dans le commandement central, dont la commandante Ramona et sur le terrain la mayor Ana María qui a participé à la prise de San Cristóbal de las Casas, les armes à la main à la tête d'une unité d'insurgés. Alors comment ça s'est passé, Benjamin, cette célébration ?
Comment ça s'est passé ? C'était dans la forêt, justement, la Condon, à une heure du village le plus proche. On y va en bétaillère et après une heure, on arrive dans un gigantesque espace organisé pour les 30 ans avec toute une organisation qu'on a pu découvrir. Et ce qui nous a frappé au début en arrivant, c'est la quantité de personnes qui étaient présentes, que ce soit des miliciennes, des miliciens, mais aussi des indigènes, donc des zapatistes, en l'occurrence, mais aussi un grand nombre de militants et militantes internationalistes qui avaient fait le déplacement, donc jeunes et aussi moins jeunes, qui venaient du coup du mouvement altermondialiste. Mais c'est toujours, en quelque sorte, une utopie très vivante, et c'est ce qu'on a pu aussi, il me semble, découvrir.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'organisation zapatiste, Cécile ?
Je dirais que l'idée, c'est de marcher en questionnant. Donc, c'est une autonomie qui n'est jamais fixe, une organisation qui n'est jamais fixe, qui est toujours en train de se retravailler elle-même, de s'adapter aux besoins. Ça va au-delà de l'opposition entre démocratie directe et démocratie représentative, parce qu'il y a bel et bien des représentants qui sont nommés pour des petites périodes de temps. Et puis, ces gens doivent réellement représenter ce qu'on leur a demandé de faire. Et puis, un mandat qui ne porte aucun avantage aux personnes qui ont ce mandat-là. Et c'est un mandat qui est réfutable à tout instant.
Pueblo manda, gobierno obedece.
L'idée, c'est vraiment que la terre appartient à celui qui s'en occupe, donc qui la travaille. le principe de non-propriété. Donc la terre de base n'appartient à personne. Il n'y a pas de papiers qui doivent régimenter cette terre. La seule manière de régler la propriété, en fait, c'est le travail. Donc les gens qui travaillent la terre peuvent récolter le fruit de leur travail, pas plus, pas moins. Il n'y a pas d'impôts à payer, etc.
Mais pour revenir à la non-propriété, là, l'une des grandes nouveautés et quelque chose peut-être qui va intéresser en Europe, c'est que des personnes, par exemple, européennes, non zapatistes, pourraient, en théorie, aller au Chiapas, cultiver la terre et apprendre auprès des zapatistes des nouvelles formes d'agriculture, de culture de la terre indigène qu'on connaît pas ici. Et vice-versa, les zapatistes sont intéressés à des nouveaux modes de rapport à la terre, de culture de celle-ci, d'Europe aussi.
Déclaración de la selva lacandona. Hoy decimos, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Zapatista, zapatista, en el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Zapatista, zapatista, en el mundo que queremos nosotros caben todos. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. En el mundo que queremos nosotros caben todos.
¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive!
C'est aussi, en fait, une référence directe. Enfin, à Zapata, la libération nationale de l'ensemble du Mexique. Il faut le rappeler, cette révolution mexicaine, les années 1910, qui a mené à un mode, justement, de propriété ou de non-propriété de la terre, qui est une propriété commune de la terre, qui est toujours présente aujourd'hui au Mexique et qui est détruite avec notamment les grands projets touristiques et, disons, ferroviaires, avec, dans la péninsule du Yucatan, le cas du train Maya, qui est assez caractéristique de ça, où on détruit ces modes de propriété collective.
L'une des idées, c'est aussi de lutter contre l'universalisme, donc l'idée qu'il y aurait un modèle qui soit valable pour tous. L'idée, c'est plutôt de faire des graines qui doivent être actualisées selon les particularités du terrain dans lequel on la plante, je dirais. Et par contre, pour faire l'écho avec ce qui se passe aujourd'hui, la création du mouvement zapatiste était, et surtout la prise de San Cristobal, visait à répondre à la signature par le Mexique du traité de l'ALENA, donc du libre-échange. D'abord, c'était la lutte armée. Ensuite, voyons que la lutte armée avait ses limites. Il y a eu un moment beaucoup plus politique où il y a eu l'idée d'essayer de faire accepter des accords avec le gouvernement. Et puis, on est dans un troisième mode d'être par rapport à ça, qui est plutôt, en fait, on fait sans le gouvernement. Nous, on n'a pas envie de participer de ce capitalisme mondialisé. Voilà, on est pacifique, on a déposé les armes. Bon, ils sont quand même encore armés, évidemment, mais on a déposé les armes au sens de la lutte. Et l'idée, c'est de faire avec ce qu'on a, où on est, et avec la terre qu'on a.
C'est bientôt demain. Antoine Chao sur France Inter.
Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia mundial y nacional.
Nous sommes le symptôme d'un mouvement de résistance nationale et internationale.
A una lógica que se presentaba como implacable, la de la globalización.
A une logique qui avait l'air implacable, celle de la globalisation.
Implicaba la destrucción de grandes sectores de la humanidad y de grandes riquezas de la.
Y que impliquait la destrucción de grandes sectores de l'humanité et de grandes richesses dans le monde.
Estamos ahorita en la puerta de dejar una forma de hacer política.
Nous sommes au moment de laisser une manière de faire de la politique pour en faire une autre.
Nosotros vemos que la gente no es feliz siendo espectadora.
Nous sentons que les gens ne sont pas heureux en étant spectateurs.
C'est le moment en que la gente se convierte en actora del proceso.
C'est quand les gens deviennent acteurs.
Es cuando las sociedades marchan mejor.
À ce moment-là, les sociétés commencent à mieux fonctionner.
Un mundo que renuncie a las luchas por la hegemonía.
Un monde qui renonce aux luttes pour l'hégémonie.
O sea, que deje de intentar que todos sean iguales a un grupo.
Qui cesse de vouloir que tout le monde soit pareil.
Que reconozca que el mundo está formado por muchos mundos.
Et qui reconnaisse que le monde est formé par beaucoup d'autres mondes.
Y que es posible que esos mundos se relacionen unos con otros sin dejar de ser lo que son.
Et que ces mondes puissent s'unir entre eux, avoir des relations entre eux, sans cesser d'être ce qu'ils sont.
Estamos seguros que ese mundo va a ser mejor que el que nos están vendiendo ahorita.
Et nous sommes sûrs que ce monde va être meilleur que celui qu'ils essaient de nous vendre actuellement.
No va a ser el mejor de los mundos posibles.
Ça ne va pas être le meilleur des mondes possibles.
Pero sí mejor que la pesadilla de ahorita.
Mais bien meilleur que le cauchemar actuel.
Cécile et le sous-commandant Marcos, la figure emblématique de la révolte des apatistes et l'icône de l'altermondialisme. Il a pris du recul, mais il est toujours là avec sa pipe et son passe-montagne.
Il a encore son passe-montagne, mais je crois que l'idée, c'était de disparaître un peu en tant que personnage que rétro, cristallisé, les attentes, etc. L'idée, c'est de faire un mouvement qui n'ait pas de visage, précisément, vu les passe-montagnes. Et donc, il a voulu prendre un peu de retrait, mais il signe encore, enfin, c'est El Capitan, donc il signe encore un certain nombre de communiqués écrits, toujours avec beaucoup d'esprit et de verve, sur les sites internet correspondants.
Hermanos, hermanas, indígenas, nosotros no deberíamos estar aquí.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
Alors, 30 ans aussi de guerre de basse intensité continue, et s'ajoute aujourd'hui vraiment la question des narcotrafiquants qui ont investi le secteur, parce que la drogue passe par là, mais il y a aussi les migrants, donc il y a tout un trafic qui s'est installé, et un conflit permanent, quoi, Benjamin.
Ouais, c'est assez aussi prégnant et présent, donc dans les discours de Moïse, et ce qu'on entend, enfin, là-bas, chez les apatistes, c'est la présence des narcotrafiquants à proximité, parce que la forêt Lacandone, donc le site, l'endroit où se situe la majorité des communautés apatistes, est très proche de la frontière avec le Guatemala, qui est un lieu de passage donc de la drogue et aussi des personnes qui essayent d'émigrer vers les États-Unis. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle plus généralement les paramilitaires, les groupes paramilitaires, par exemple les caféiculteurs de Cosingo, qui ont formé un petit groupe armé et qui vont essayer de récupérer des terres apatistes. Et récemment, juste pour le signaler, le 18 janvier ou le 19, il y a eu une attaque de ces paramilitaires pour récupérer certaines terres apatistes. Ils ont réussi à expulser quand même 29 apatistes. Ils ont détruit quand même une école, ils ont brûlé des livres. Donc c'est une guerre, certes de basse intensité, mais qui a toujours lieu et qui a une répercussion profonde, intense, importante sur le mouvement zapatiste aujourd'hui.
Est-ce que c'est une ZAD ? Est-ce que c'est une zone à défendre aujourd'hui ? Donc les communautés zapatistes là-bas dans la forêt, Lacandone, donc Cécile.
Il y a l'idée que c'est bel et bien une terre à défendre, enfin une terre à défendre par rapport au capitalisme, clairement. On a vu notamment une pièce de théâtre qui présentait le train du capitalisme, qui était une métaphore assez littérale au vu des projets ferroviaires d'AMLO. Une des idées, c'est de défendre les terres de cette destruction et de défendre aussi les habitants de ces terres et les travailleurs de ces terres de leurs déplacements forcés. Et donc, oui, il y a quelque chose d'une zone à défendre, effectivement.
Il y a vraiment cette notion-là que la terre aussi, avant d'être, disons, détruite par le capitalisme ou accaparée, en fait, dessus, il y a des personnes qui y vivent, et notamment des personnes indiennes, différentes ethnies mayas, notamment. Et que donc, ces terres-là, elles ont le droit de les cultiver. Et on peut pas s'accaparer ces terres-là. Et donc ça, c'est un point de rencontre, mais aussi de divergence. Parce que les trois grands axes, en gros, du mouvement zapatiste, comme on pourrait l'appeler, c'est une lutte indienne. Parce que l'indianité est vraiment au cœur du mouvement zapatiste. Deuxièmement, c'est une lutte pour l'autonomie, dont on a parlé. Et troisièmement, c'est une lutte anticapitaliste. Et donc, c'est vraiment ce mélange, cette mescla des trois choses qui font le mouvement zapatiste. Et ça peut, on peut pas réduire le mouvement à uniquement une de ses composantes.
Le fait qu'on est dans un endroit particulier, on doit le défendre d'une façon très particulière et s'en occuper d'une façon très particulière, y vivre d'une façon très particulière. Donc, ZAD partout, oui, mais ZAD partout différemment, selon le terrain dans lequel on est.
C'est aussi ça que veut dire la métaphore, ou plutôt la maxime, voilà, zapatiste, qui dit qu'il faut planter des graines de l'utopie future. Mais en fait, les graines, selon qu'on les plante dans la terre de la forêt Lacandone ou à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans le bocage, c'est quelque chose de différent va en sortir.
En fait, en défendant la terre, on défend aussi les gens qui habitent sur cette terre. Et c'est pas seulement, disons, l'humain qui vient au secours d'une terre à défendre, mais aussi une terre qui doit être défendue pour que ses habitants soient défendus en même temps. Cette idée d'une interdépendance entre la terre et les gens qui y vivent.
Et ça représente combien de personnes aujourd'hui, hein, donc l'univers, l'écosystème zapatiste sur place, quoi?
Bon, c'est difficile de répondre exactement à cette question. Il n'y a pas de recensement, hein. Donc il n'y a pas vraiment d'État central et centralisé. Mais c'est à peu près le territoire, on va dire, c'est à peu près l'équivalent de la Belgique. Donc c'est assez grand. Et il y a bon, plusieurs dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de personnes qui participent à cette utopie-là, à cette expérience zapatiste. En 2008, en tout cas, je n'ai pas les chiffres maintenant, mais il y avait 500 écoles avec à peu près 10 000 élèves. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Nous, c'est ce qui nous a aussi marqué en allant là-bas, c'est voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Et c'est ce qu'ils ont essayé de mettre en avant lors de cet anniversaire. Je veux dire, il y avait des par exemple des matchs de basket, c'était que des jeunes. Il y a une forme de relève qui semble, en tout cas, à nos yeux, assurée.
Zapatistas, es el común.
¡Viva el común!
Muchas gracias. Es toda nuestra palabra.
¡Viva el común!
Vive les communs et la non-propriété, c'était les derniers mots prononcés par le commandante Moïses pour cette commémoration des 30 ans du début de la guerre contre l'oubli. Merci à Cécile Fazel et Benjamin Martin. Vous pouvez trouver le récit de leur voyage sur leur blog Mediapart. Merci aussi à Jérôme Blachet et Juan Calderon. Toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.